C'est chouette de vous voir et d'être en famille, la famille du Seigneur. Alors, ce matin, ce que je vous propose, c'est bien de continuer notre série de prédications sur le thème du témoignage et de l'évangélisation. Et puis, je voudrais raccrocher rapidement les wagons avec ce qui nous a été déjà annoncé durant le mois dernier. Donc Loïc nous avait introduit sur le thème de l'évangélisation et du témoignage. Il nous avait parlé plus particulièrement sur le vocabulaire du Nouveau Testament, témoigner, évangéliser, annoncer l'évangile. Il avait attiré notre attention sur le fait que l'évangile se transmet par des mots au cours d'une conversation adaptée. Puis Fred avait abordé les difficultés au témoignage. Et puis, il avait insisté plus particulièrement sur la honte que nous pouvons ressentir face à l'Évangile. Effectivement, nous avons tous besoin de grandir dans le témoignage. Et personne, à part quelques petites personnes que je nommerai pas ce matin, ne peut se prévaloir d'une grande compétence en ce domaine, et moi y compris. Alors, vous retrouverez les deux prédications sur le site internet de l'Église, et puis je vous invite à y aller régulièrement. Ce matin, donc après les freins au témoignage, ce qui pourrait nous arrêter, je voudrais aborder avec vous ce qui nous pousserait à témoigner, c'est-à-dire les motivations au témoignage. Voilà. Alors, lorsqu'on regarde de près les Écritures, on s'aperçoit qu'il y a très peu d'exhortations directes à évangéliser ou à témoigner. On connaît tous Matthieu 28, « Allez de par toutes les nations, faites des disciples », etc. On connaît peut-être le verset de Paul à Timothée, « Fais l'œuvre d'un évangéliste ». Mais à part ça, il y a très très peu de versets qui exhortent les croyants à témoigner et à annoncer l'évangile. Par contre, lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on découvre une église qui est zélée, avec des fruits manifestes au témoignage. L'évangile progresse davantage et plus rapidement par le témoignage quotidien, en parole et en acte, des disciples de Jésus-Christ, bien plus que par la prédication des apôtres seuls. Bien entendu, nous sommes impressionnés lorsque nous lisons Acte 2 et la prédication de l'apôtre Pierre qui témoigne à la foule qui est là, et puis 2000 personnes se convertissent, se tournent vers Jésus-Christ, se font baptiser. Et puis c'est pratiquement la seule prédication, je dirais, publique de l'apôtre que l'on trouve dans les Actes des apôtres. Par contre, on s'aperçoit que l'Église grandit, que son impact d'évangélisation grandit, prospère. Il nous est dit que la parole de Dieu se répand partout dans le monde entier, et cela est le fait simplement du témoignage que je vais appeler le témoignage rayonnant des disciples de Jésus-Christ, des fidèles de Jésus-Christ. Paul, par exemple, alors qu'il n'était pas présent, dit à l'église de Thessalonique, « J'ai appris le retentissement de la parole de Dieu en Macédoine. Et ce retentissement de la parole de Dieu se fait sans apôtre, sans évangéliste. Simplement par la simple foi et la fidélité et la persévérance des simples croyants, entre guillemets, les simples croyants. Hein ? Alors d'où vient ce zèle des premiers croyants, des premiers chrétiens ? Pourquoi et comment cela se fait-il que des hommes si apeurés, si honteux, se mettent à témoigner avec hardiesse et enthousiasme de leur foi en Jésus-Christ ? Comment des personnes, au risque de leur vie, témoignent-elles et continuent-elles à le faire ? Alors, je vais vous donner quelques raisons. Elles ne sont pas exhaustives. On évangélise parce qu'on est reconnaissant. On témoigne par reconnaissance. Est-ce que vous avez entendu parler de Polycarpe ? Bon, ce n'est pas un de vos amis d'école, n'est-ce pas? Il fait partie des ce qu'on appelle des pères apostoliques de l'Église. Polycarpe faisait partie de la seconde génération de croyants. Il était venu à la foi par l'apôtre Jean. Il a connu directement l'apôtre Jean. C'était dans les années 70. Et là encore, ce n'est pas dans les années 1970, hein, c'est dans les années 70, vraiment dans les années 70. Jean, l'apôtre Jean, a été le mentor de Polycarpe. Et Polycarpe était pasteur à Smyrne, une des sept églises qui est citée dans l'Apocalypse. Une persécution éclate, et vers les années 155-160, eh bien, Polycarpe est amené devant le proconsul romain, et là, on lui demande raison de sa foi. Le proconsul lui demande « Es-tu Polycarpe ?» Et Polycarpe répond « Oui, je le suis. » Le proconsul lui dit « Aie pitié de tes cheveux blancs, maudis le Christ, et tu seras libre. » Et qu'est-ce que va répondre Polycarpe ?« Il y a 86 ans que je sers le Christ. » Et il ne m'a fait que du bien. Comment pourrais-je alors le maudire ? Il est mon créateur, mon roi et mon sauveur. 86 ans. Polycarpe sera brûlé. Il aurait pu sauver sa vie en disant simplement « Je maudis le Christ », en disant une seule phrase. Et il a témoigné au péril de sa vie, au risque de sa vie. Jésus est mon roi, mon sauveur. Mon Seigneur. Alors cet exemple nous montre bien ce qui devrait nous pousser au témoignage, la reconnaissance. Il y a 86 ans que je le sers, il ne m'a fait que du bien. Et il ne m'a fait que du bien. Mes amis, on ne témoigne pas parce qu'on devrait témoigner ou parce que ce serait de l'ordre du devoir chrétien. On ne témoigne pas non plus pour être béni de Dieu. On ne témoigne pas parce que l'on devrait rendre quelque chose à Dieu. Et dans la vie chrétienne, vous le savez, je ne vous apprends rien, il n'y a pas de place au marchandage. Il n'y a pas du donnant-donnant. On ne témoigne que par reconnaissance, car l'Évangile est grâce, pure grâce. Nous témoignons quand nous prenons conscience de tout ce que Jésus a fait pour vous, pour nous. Alors que nous ne le méritions pas en aucune manière. Rappelez-vous la Samaritaine. Elle vient au puits les plus chaudes de la journée, midi, juste pour remplir sa cruche. Elle ne veut voir apparemment personne. Et là, elle rencontre Jésus. Elle est étonnée de voir d'ailleurs quelqu'un sur la margelle du puits. Le texte nous dit, alors ça je trouve que c'est merveilleux, et on découvre l'humanité de Jésus à travers ce texte. Le texte nous dit que Jésus s'est arrêté au bord de ce puits, fatigué du voyage. Et puis, cette rencontre avec la Samaritaine prend des tournures un petit peu spéciales. Une conversation des plus banales commence à s'enclencher au sujet de l'eau. Et puis, Jésus va aller un petit peu profondément. Il y a un rendez-vous avec cette Samaritaine, un rendez-vous de Dieu. Jésus l'interroge sur les échecs de sa vie. 5 divorces, 5 veuvages. Et la personne avec qui la Samaritaine vit n'est pas son mari. Une aventure de passage, on ne sait pas. Mais imaginez le désarroi de cette femme au bord du puits. 5 mariages, 5 divorces ou 5 veuvages, on ne le sait pas. Mais ça commence à faire quand même. Et puis après sa conversation avec Jésus, nous voyons une femme complètement transformée, complètement chamboulée, qui va dire aux habitants de son village, elle qui allait, je dirais, en catamini chercher son eau au puits, elle va dire à tous les habitants du village, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et ce qu'elle a vécu n'était pas glorieux. Son péché, sa honte, son opprobre a été dévoilé lors de la conversation avec Jésus. Et elle n'a pas cherché à le cacher, elle a confessé ce qu'elle avait vécu. Et là, au bord du puits, elle a reçu grâce sur grâce. Jésus, celui qui donne la vraie eau de la vie, l'a accueillie et son jugement sur elle était la grâce. Et c'est la réception de la grâce qui la pousse en mouvement. C'est la reconnaissance qui l'a poussée à rendre témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Waouh ! Il m'a fait que du bien, disait Polycarpe. Il m'a dit tout ce que j'ai fait, disait la Samaritaine. Et nous avons chacun d'entre nous une histoire un peu particulière avec le Seigneur. Avec ses péchés, son opprobre, sa honte. Et nous avons reçu grâce sur grâce. Et voilà ce qui devrait nous pousser au témoignage. Cette reconnaissance que nous avons lorsque nous découvrons notre Seigneur rempli de grâce. On évangélise aussi parce que l'on aime. Parce que l'on aime. Chantal a vu un film cette semaine et ce film l'a enthousiasmé. C'était un film pris à la bibliothèque. Et elle m'a dit qu'elle allait le prêter à Corinne et à Gérard. Alors je lui ai demandé, étonné, mais pourquoi tu veux le prêter ? Fais attention, il n'y a que 3 semaines, il faut aller le rendre après. Hein ? Et puis Gérard et Corinne, il faut aller le chercher après. Hein ? Et elle m'a dit, Chantal m'a répondu tout simplement, eh bien j'ai aimé ce film et j'ai envie de le partager. J'ai aimé ce film et j'ai envie de le partager. Et oui, lorsqu'on aime quelque chose ou quelqu'un, on ne fait pas trop de plans de communication, n'est-ce pas ? On ne cherche pas, on le partage tout simplement. Tout simplement, c'est un mot que je reprends de Fred. Fred finit souvent ses phrases par « tout simplement ». Et je trouve que c'est tellement juste, « tout simplement ». On aime, on partage, tout simplement. Lorsqu'on aime quelque chose et lorsqu'on aime quelqu'un, eh bien ça se voit et ça se sait. Et Jésus le dit, c'est de l'abondance du cœur. Eh bien que la bouche s'exprime, c'est de l'abondance de ce cœur qui reçoit l'amour qu'il partage tout simplement. Vous connaissez le premier commandement ? Tu aimeras. Hein ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Jésus précise le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, l'amour du chrétien a plusieurs caractéristiques. Et alors, rapidement, hein, parce que je ne vais pas faire un speech sur l'amour ce matin. Dans l'amour du chrétien, il y a une part de volonté. Tu aimeras, c'est un commandement, c'est un impératif. Il y a aussi une part émotionnelle. Parce qu'on ne peut pas comprendre l'amour s'il n'y a pas le sentiment amour, s'il n'y a pas l'émotion amour. Et puis le Seigneur nous a rappelé ce matin qu'il voulait un amour qui ait un petit peu de l'ordre de la passion pour lui, hein. Je vous rappelle que cette femme qui s'est jetée aux pieds de Jésus, qui a pleuré sur les pieds de Jésus, qui a lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux, qui a répandu du parfum, elle le fait simplement parce qu'elle était touchée émotionnellement. Hein ? Il y avait un pharisien qui avait accueilli Jésus dans sa maison et qui était là et qui commence à critiquer cette femme qui déborde d'émotion. « Ne sais-tu pas qui est cette bonne femme ?» Voilà. Elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé. Nous sommes appelés à beaucoup aimer notre Seigneur. Et la troisième caractéristique de l'amour, eh bien, c'est que l'amour, c'est une réponse. Et ça a été dit encore ce matin. Nous l'aimons parce que quoi ? Parce qu'il nous a aimés le premier. Parce qu'il a débordé d'amour, lui, le premier. Nous l'aimons en réponse à son amour. C'est une réponse qui est tout à fait normale. La quatrième caractéristique, c'est que cet amour se concrétise par l'amour des hommes. Lorsque Jésus demande à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu ? Toi, est-ce que tu m'aimes ?»« Oui, Seigneur, tu le sais. » Jésus lui répond, « Fais paître mes brebis. Fais paître mes brebis. Occupe-toi de ces petits qui sont autour de toi. M'aimes-tu ? je reviens brièvement sur le côté émotionnel de l'amour chrétien. Cette part émotionnelle, on a parfois tendance à la mettre sous le boisseau, à la faire taire. Parce que dans le monde chrétien, tout ce qui est émotionnel est un peu suspect. Hein ? C'est souvent arrangé sous l'étiquette « la chair », « c'est charnel ». Ou alors, parfois, pire encore, on va le ranger du côté féminin. C'est bon pour les femmes, ça, de déborder d'amour, etc. Hein ? C'est bien dommage. C'est bien dommage. Dans le côté émotion, il y a la racine motion. Ça veut dire, ça veut mettre en mouvement. La motion, c'est ce qui met en mouvement. Je suggère que la volonté et l'émotion vont de pair lorsqu'il s'agit de l'amour chrétien. L'un et l'autre sont des alliés dans la vie du croyant. On ne peut pas vivre simplement que de volonté. À un moment donné, ça va se tarir. On ne peut pas vivre simplement que d'émotion. Volonté et émotion sont, je dirais, les deux rails de l'amour chrétien. L'amour pour Jésus et pour les hommes nous met en mouvement, ou devrait le faire en tout cas pour le témoignage. Il y a deux émotions formidables et puissantes lorsqu'on parle du témoignage. C'est l'amour et c'est la joie. L'amour et la joie. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Qu'ils sont beaux. En hébreu, c'est « Ah, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles, qui publient la paix, de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. » La joie a deux effets, une dans le présent et une dans l'avenir. Dans le présent, lorsqu'on partage au sujet de son amour, qui concerne le Christ. Imaginez un mari ou une épouse, hein, je prends un mari parce que c'est mon cas, imaginez un mari qui prépare un cadeau à sa femme ou qui y réfléchit. Il y a de la joie dans ce temps-là. Il y a de la joie dans le temps des prémices, lorsqu'on témoigne. Puis il y a le temps où le cadeau est remis. Et la joie est encore plus complète là, à ce moment-là. Jésus a vécu cette joie. Il a tressaillir d'allégresse. Je ne sais pas comment ça fait, hein. Tressaillir d'allégresse. Parfois, j'ai une émotion qui est très puissante en moi. C'est que ça vient de là, de l'intérieur de mon cerveau, et ça descend jusque, tout le long de la colonne vertébrale jusqu'en bas. Et ça me fait comme ça. Des fois, quand je découvre quelque chose de la beauté de Dieu ou quand je suis dans mon culte personnel et que j'ai un moment un petit peu spécial avec lui, c'est cette sensation que j'ai là. Alors, je ne sais pas si c'est ça que Jésus veut dire quand il tressaillit d'allégresse. Je suppose que vous avez tous vécu des temps où le Seigneur vous a parlé de manière un petit peu spécifique comme ça et vous avez ressenti sa présence et cette joie immense. Vous avez tressailli d'allégresse. Jésus a tressailli d'allégresse lorsque les disciples sont venus pour la première fois après qu'il les a envoyés, les 70. « Waouh, Seigneur, nous avons vu des choses incroyables à ton nom. On a prié pour des gens et ils ont été bénis. On a chassé des démons et les démons, ils sont partis. Waouh, Seigneur Jésus, qu'est-ce que c'est super d'être avec toi. » Et puis Jésus, à ce moment-là, tressaille d'allégresse et dit « Oh là, j'ai vu le Satan tomber du ciel sur la terre. » Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous de cela. C'est quand même incroyable, ça. Jésus est mort en vue de la joie qui lui est réservée. Et il y aura une joie encore plus complète lorsque nous serons tous ensemble autour de lui à partager cette joie. Il y a de l'amour lorsqu'on témoigne, il y a de la joie quand on témoigne. Un jour, on fera parler ceux qui témoignent le vendredi, ici, le dimanche matin. Hein. Et puis, vous allez entendre leur discours. Lorsqu'ils parlent à une telle personne ou à une autre personne, le témoignage qu'ils ont eu en parlant, tout simplement. Et il y a de la joie lorsqu'ils racontent. Il y a de la joie aussi en espérance lorsqu'on amène quelqu'un devant le fait de l'Évangile. Alors la troisième raison pour laquelle on évangélise ou on témoigne, elle est moins... Enfin, j'ai plus de mal à en parler, mais elle est vraie et l'évangile en parle. On évangélise car l'enfer existe. Et Jésus parle des ténèbres du dehors. Jésus parle du feu qui ne s'éteint pas. Les peines éternelles font partie du message de Jésus. Alors c'est certain, on ne prêche plus comme au Moyen-Âge et on ne s'appuie pas sur la peur de l'enfer pour aborder les gens. Mais la bonne nouvelle du salut est une bonne nouvelle du salut. On est sauvé. Il y a des personnes sauvées et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et donc, il y a une nécessité de les avertir. Tout simplement, comme dit mon ami Fred. Alors, je comprends la réticence des hommes. Et face à cette réalité de l'enfer, je suis moi-même, j'essaie de lutter contre cette vérité-là que l'Évangile nous enseigne. Je comprends la réticence des hommes et même des croyants en ce qui concerne la doctrine du jugement et des peines éternelles. Et j'aurais préféré un salut universel. Ou encore, s'il n'y a pas de salut possible, un anéantissement. Ou alors croire encore que l'enfer serait vide. Ou encore, comment croire en notre propre félicité pendant que d'autres seraient éloignés de Dieu pour l'éternité, y compris de nos bien-aimés. Mais mes amis, c'est ce qu'on lit dans la Bible. Moi, je ne peux pas faire l'impasse. Si l'enfer existe, l'annonce de l'Évangile n'est plus une option pour les croyants, c'est une nécessité. Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche ? Alors, s'il ne s'agit pas de témoigner en culpabilisant les gens à qui nous témoignons, c'est l'amour de Dieu qui pousse les hommes à la repentance. Ni pour nous de témoigner dans la culpabilité, parce que c'est l'amour de Dieu et la reconnaissance qui nous pousse à témoigner de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Je le répète, vous avez saisi ça. Hein ? Il ne s'agit pas de témoigner en culpabilisant les gens à qui nous témoignons. C'est l'amour de Dieu qui pousse à la repentance. Ni pour nous de témoigner dans la culpabilité, parce que c'est l'amour de Dieu et la reconnaissance qui nous pousse à témoigner de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Alors je voudrais ouvrir une fenêtre pastorale quand même à ce sujet-là, par rapport à ces questions. Il y a un an, j'ai perdu maman. Et je me suis posé de manière aiguë cette question-là. Je m'étais posé cette question au sujet de l'enfer et de l'évangélisation, etc., bien avant, ça fait longtemps. Mais là, de manière plus aiguë, face au décès de maman, je me suis posé la question encore plus, de manière plus tangible. Qu'en est-il de nos bien-aimés qui n'ont pas manifesté des critères visibles de foi, qui ne nous ont pas suivis dans notre façon d'être chrétiens, ou qui n'ont pas fréquenté l'Église ? Devons-nous conclure obligatoirement qu'ils sont loin de Dieu, non réconciliés avec lui ? Un élément de réponse que j'ai eu c'est l'année dernière, à peu près à cette même époque. Nous ne connaissons de personne que ceux qui nous donnent à voir. Seul le Seigneur voit le cœur et la foi. Ta bien-aimée est devant le juste juge. Le juste juge. Juste juge. Qui ne juge pas selon les apparences, comme nous, nous pouvons juger. Elle est devant le juste juge qui juge avec droiture, avec sagesse, conformément à sa justice et à sa sagesse et à son amour. Jésus prévient, même des prostituées, nous devancerons. Je me rends compte que l'on ne sait pas le nombre de personnes en enfer. Cependant, devant le trône de Dieu, je peux lire « Le ciel compte des myriades et des myriades ». Je me rappelle la foi née en un seul instant. Il y a eu un seul regard qui a précipité la chute. Un seul regard peut amener le salut, comme le brigand sur la croix. Comme le brigand sur la croix. La gloire de Dieu, on l'a dit ce matin, c'est sa bonté. La gloire de Dieu, c'est sa grâce. Sa sévérité vient d'un cœur paternel, juste et amour. Je me rappelle, je ne rejette pas celui qui vient à moi. Alors, toutes ces réponses que j'ai eues simplement dans mon inquiétude par rapport à ma mère m'a amené simplement à faire confiance au juste juge. Et je ne peux pas affirmer, ni confirmer, ni renier où aller, jusqu'elle est juste devant le juste juge. Et cela m'a mené simplement dans une confiance, une espérance. Je sais en qui j'ai cru, disait l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. Et je sais que son cœur est un cœur d'amour. Je ferme la parenthèse et je continue. On évangélise car le Saint-Esprit nous en rend capable. J'aimerais lire 2 Corinthiens 5, verset 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, nous vous en supplions, il y a une espèce d'urgence qui est exposée ici, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu, faites la paix avec Dieu. Et notre message est celui-ci, le message des croyants. Soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous en rend capables. C'est lui qui a fait de nous des ambassadeurs de Christ et qui nous équipe pour le représenter auprès des non-croyants. Et le Seigneur a donné à l'Église entière cette mission qui n'est pas réservée aux apôtres et aux évangélistes. C'est l'Église qui reçoit cette mission de dire au monde, avec empressement, soyez réconciliés avec le Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On évangélise parce que c'est notre identité, finalement. Dans ce verset, Paul nous qualifie d'ambassadeurs de Jésus. OK ? Ambassadeurs. Nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Jésus. Vous êtes, si vous êtes croyant, ambassadeurs pour le Christ. Pas besoin de faire un stage de compétences. Le fait que nous soyons nés de nouveau nous amène à être ambassadeur pour le Christ. Le jour de notre nouvelle naissance, nous devenons spirituellement des ambassadeurs pour Christ. Et il fait de nous une nation sainte, appelée à proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alors, frères et sœurs, si c'est cela que nous sommes en Christ, et il y a plusieurs façons, il y a ambassadeur pour Christ, sel de la terre, lumière du monde, parfum pour le monde, plusieurs images comme ça qui sont dans le Nouveau Testament et qui sont appliquées à nous, aux croyants. Voilà. Si c'est ce que nous sommes en Christ, alors le Saint-Esprit va faire en sorte que nous vivions en adéquation avec cette nouvelle identité. Et si, malencontreusement, nous ne vivons pas ce que nous sommes, alors nous ratons le but de notre identité. Nous ratons le but pour lequel Dieu nous a créés. Le Saint-Esprit va lutter en nous pour nous faire devenir ce que nous sommes appelés à être. Ok ? C'est le boulot du Saint-Esprit en nous de nous rendre capables de vivre selon notre identité que nous avons héritée en Christ. Alors je vais laisser le travail au Saint-Esprit de le faire, n'est-ce pas ? Et je voudrais conclure ce message. En revenant sur notre amour pour Dieu, qui est, je dirais, la motivation peut-être la plus puissante pour témoigner. Et peut-être, je vais laisser la place au Seigneur ce matin de nous interroger sur l'état de notre cœur. Est-il froid ? Est-il tiède ? Est-il bouillon ? S'il est froid ou s'il est tiède, que nous reste-t-il à faire ? À nous morfondre ? Non. Non, s'il est froid, s'il est tiède, la gloire de Dieu, c'est de nous faire grâce. Eh bien, c'est de nous révéler à nouveau son amour pour nous. Approche-toi du feu, ça va te réchauffer, dit Gérard. S'il est froid ou s'il est tiède, que devons-nous faire ? Revenir à Jésus et raviver la flamme de notre premier amour. Dire pardon Seigneur pour notre tiédeur. Pardon Seigneur pour ma tiédeur. Nous rappeler d'où il nous a sortis. J'étais un grand pécheur et il m'a sauvé par grâce. Prions.